Merci de nous accueillir encore une fois. On connaît votre gentillesse. Merci, merci pour les cadeaux préparés. N'attendez pas tout ça, mais merci quand même, c'est très gentil. Il n'y a rien dedans, hein? Bon.
Je vous assure qu'il n'est pas mal, mais il n'y a rien.
Ah ouais.
Je vous laisse à votre imagination.
C'est-à-dire que c'est moi qui mets ce que je veux dedans. Ah ouais, c'est un beau cadeau, effectivement. Gloire à Dieu. Donc vous avez toutes les salutations de l'église de Douai et de Bruno, encore une fois. Pour introduire cette réunion, Élie nous a dit que ce qui est important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et effectivement, bien sûr, hein, quelle parole de sagesse. Et ça tombe bien parce que ce matin, j'ai préparé une petite méditation sur les héros de la foi. Alors, on n'est pas beaucoup, mais on est tous des héros. Remarquez, des héros, il n'en faut pas beaucoup, hein, il n'y a pas besoin. Pour changer le monde, il ne faut pas beaucoup de héros. Mais en tout cas, ils sont là ce matin, ils sont à Bruay. Gloire à Dieu.
Amen.
Alors, un chapitre de toute la parole de Dieu est attribué à ces fameux héros que l'on aime lire parce qu'ils relatent des choses extraordinaires qu'ils ont vécues dans leur vie. Et moi, j'aime bien lire ces passages parce qu'ils nous encouragent. Mais je ne sais pas pour vous, autant ils nous encouragent, autant ils peuvent, enfin, en tout cas pour moi, me donner des complexes. Parce que waouh, moi je ne suis pas un David, je ne suis pas un Abraham, je ne suis pas un Moïse, etc. Parce que, en raisonnant de la sorte, on se demande personnellement si on est véritablement un héros. Et lorsque l'on regarde notre vie, on se dit, ben moi je n'ai pas accompli de choses extraordinaires, je suis souvent atteint par le découragement, je suis souvent atteint par les problèmes, la maladie, les épreuves. Et quand on regarde la vie de David, la vie de Moïse, on se dit, ouais, c'était pas comme ça. Pourquoi c'est pas... Oh, ça paraît aussi facile, et pourquoi, pour moi, ben, je ne vis pas la même chose que ces hommes-là. D'ailleurs, pourquoi certains chrétiens ont-ils une vie en apparence, je dirais, facile, et d'autres, peut-être sans épreuve, et puis d'autres ont une vie un peu plus compliquée et difficile, tout en tant que... En tant qu'enfant de Dieu, hein, on s'aperçoit qu'il y a des vies pour qui ça va, ça roule, et il y en a d'autres. On se dit, mais pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi il y a tant de difficultés, de coups du sort? Est-ce que les uns seront des héros, puis les autres, ben, un petit peu moins? Cette question ne manque pas de surgir lorsqu'on apprend une nouvelle tuile qui arrive, tiens, dans la vie d'un frère ou d'une sœur. On se dit, mais pourquoi? On ne comprend pas tout. Les trois amis de Job avaient une réponse un petit peu simpliste par rapport à cela, lorsqu'ils ont vu leur ami qui ployait sous les difficultés, en tout cas les problèmes de santé. Si Job était autrefois autant béni, hein, et qu'il subissait catastrophe sur catastrophe, bah c'est tout simplement parce qu'il avait un péché caché dans sa vie. Hein, voilà ce que vont dire ces trois amis. Job, lui aussi, hein, s'interrogeait sur les raisons de sa situation. C'était une logique imparable. Si on est fidèle, ben le Seigneur aussi est fidèle et tout va bien. En revanche, si j'ai des soucis, des problèmes et des difficultés, c'est que eh bien, dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne plaît pas au Seigneur. Et qu'en l'occurrence, eh bien, je ne suis pas aussi fidèle que ceux qui sont bénis. Voilà ce que le conseil que va amener les amis de Job à celui-ci, et voilà ce que l'on peut entendre et ce que l'on peut raisonner également au-dedans de nous. Il est même relativement facile de trouver des textes bibliques, je dirais, qui appuient un tel raisonnement. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Bah oui, moi, je suis dans la galère, ça veut dire que je ne crains pas Dieu. Voilà comment on peut raisonner. On peut aussi se poser la question inverse. Pourquoi certains chrétiens sont-ils durement persécutés alors que d'autres jouissent d'une certaine tranquillité dans leur vie? Paul dit-il, ne dit-il pas pourtant que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés? Alors on a du mal un petit peu à comprendre et à trouver la bonne combinaison de cela. Cela signifie par exemple que nous, chrétiens occidentaux, finalement, on n'est pas plus fidèles que les églises qui sont actuellement persécutées. Hein, en Algérie, en Kabylie, en Chine, etc. Ils sont plus fidèles que nous. Nous, on n'est pas persécutés, on est relativement tranquille pour vivre notre foi. Et on va se dire, oh, ben, le Seigneur considère que l'on n'est pas très fidèle, donc ben, on n'est pas persécuté. C'est justement ce passage des, des héros de la foi, justement, qui vont peut-être nous aider à éclaircir un petit peu cela, à comprendre et à résoudre cette question. Alors, on va lire tout simplement le passage d'Hébreux 11, mais à partir du verset 32 au verset 38, il y a là donc tous ces personnages dont nous parle la parole de Dieu, qui ont accompli des choses et qui figurent parmi ce chapitre 11 des héros de la foi. Mais moi, j'aime beaucoup lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 38. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Après avoir analysé rapidement cette portion de ce chapitre des héros de la foi, nous pouvons prendre deux illustrations. Parce qu'effectivement, lorsqu'on prend le chapitre dans son ensemble, on a toute une partie où il nous est relaté les exploits de ceux que la Bible appelle les héros. Et puis ensuite, eh bien, des gens qui paraissent un petit peu moins héroïques. Certains ont été sciés, torturés, etc., etc. On se dit, oulala, c'est pas le genre de héros que j'avais pensé être, moi. Je serais plutôt dans la première partie. Alors, on va voir, si vous voulez bien, ce matin, des exemples que l'on va tirer de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour avoir quelques pistes de réflexion, pour savoir finalement qu'est-ce qu'un héros aux yeux de Dieu. Il y a effectivement deux catégories de héros. Après avoir évoqué les grands hommes et les femmes de foi aussi, bien sûr, dans la parole de l'Ancien Testament, dresse une liste d'exploits impressionnants. Vaincre des rois, fermer la gueule des lions, guérir de graves maladies, gagner des batailles. Quel héros, quel exploit. Et on conçoit la foi et on imagine une vie de foi avec ces dimensions-là. Quel héros, hein. Mais l'auteur continue en donnant une liste de gens un petit peu moins héroïques, en tout cas, dans notre conception des choses. Que viennent faire dans ce contexte ceux que l'on appellerait plutôt des losers que des héros, hein. On dit, ouh, Seigneur, ce sont des héros quand même. Pourtant, selon le Seigneur, ces derniers sont tout autant que les premiers des héros de la foi. Le terme grec utilisé pour d'autres, hein, puisqu'il fait l'éloge de certaines personnes qui ont vécu des choses extraordinaires dans la première partie du passage, et puis après, il nous est dit « d'autres », et c'est là qu'on bascule sur ceux qui ont une suite un petit peu moins glorieuse. Le terme utilisé pour d'autres est précis. Ce sont des personnes de la même nature. Hein, ce « d'autres », nous, que l'on traduit comme cela en français, la version grecque nous dit « pourtant, d'autres personnes de la même nature vont vivre quelque chose de différent, sans différence qualitative, hein, encore une fois, avec les premières. Vainqueurs, vaincus, ils ont rendu le témoignage par le moyen de la foi. » Et au travers de ce qu'ils ont vécu, ils ont rendu témoignage au travers de la foi. Et voilà ce que le Seigneur dit. Selon les traditions juives, vous savez, Ésaïe est quelqu'un qui était mis à mort et qui était scié en deux dans un tronc d'arbre. Michée, le prophète, frappé pour être resté fidèle. Zacharie, lui, lapidé sous le règne de Joas. Et de nombreux juifs fidèles sous Antioche et Épiphane, dont les épreuves sont rapportées dans les différents apocryphes des Maccabées, sont aussi dignes de figurer dans les héros de la foi. Et on s'aperçoit que la foi ne se caractérise pas par le fait d'être passé au tranchant de l'épée, ni d'avoir fait des choses extraordinaires, hein, ni par le fait de mourir sous l'épée, mais on s'aperçoit qu'il y a toute une attitude de cœur qui plaît au Seigneur. Et cette attitude de cœur, elle est tout simplement lorsque l'on se confie en Dieu. Et autant le héros glorieux que le héros un petit peu moins glorieux, eh bien, on s'aperçoit que le Seigneur honore leur foi. Et voilà ce qui est important. C'est cette attitude de cœur qui va faire que dans la situation dans laquelle ils sont là parce qu'ils ont le désir eh bien, de témoigner de l'espérance qu'ils ont dans le cœur. On pense qu'avoir un témoignage de foi, c'est de vivre des exploits. Effectivement, et on est venu au Seigneur avec le but et le désir de vivre par la foi des exploits qu'il ne nous était pas donné de vivre dans ce monde. Mais bien souvent, eh bien, c'est devant notre réaction dans l'épreuve que sera le plus beau témoignage que l'on va rendre à nos proches et à ceux qui nous entourent. C'est souvent dans cette situation-là que les autres vont reconnaître, lui, il a quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Ce n'est pas quand je vais vivre des choses extraordinaires que le témoignage va être le plus éclatant. Bien au contraire, c'est quand je vis des choses les plus difficiles, mais que je reste fidèle et que je me confie en Dieu. Et c'est là que le Seigneur va plus et mieux se glorifier au travers du témoignage que l'on rend. Et on peut regarder, par exemple, dans l'Ancien Testament, deux exemples. Nous avons premièrement Daniel, qui était un homme particulièrement béni, déporté dans le premier groupe amené par Nebuchadnezzar en Babylonie. Et on s'aperçoit que cet homme, eh bien, il va prospérer. Il est prospère jusqu'à devenir même une sorte de premier ministre. Il est d'une santé étonnante parce qu'il mange des trucs là. Il manque dans sa nourriture de choses essentielles et puis pourtant il est d'une santé étonnante. Il reçoit de la part de Dieu une sagesse extraordinaire dans laquelle il peut expliquer des choses cachées et des choses de la part du Seigneur. Il est capable d'interpréter des songes, mais aussi des messages difficiles. Ces interprétations, pourtant parfois très dures, sont acceptées par les rois. Et il va même jusqu'à fermer la gueule des lions. Assurément, il a une place de choix dans les héros de la foi. Et effectivement, il correspond bien à la définition de ce que l'on a de la foi et de ce que la foi veut faire, est capable de faire dans la vie de celui qui se confie en Dieu. Et puis, si on regarde d'autres personnages, toujours de l'Ancien Testament, et notamment un autre prophète, eh bien, on peut tomber sur Jérémie. Et Jérémie, lui, au contraire, on se dit, mais lui, il accumule les erreurs, le pauvre, Ah, lui, c'est vraiment pas des exploits tels qu'on aimerait les vivre. Lui, bien au contraire, son message n'est pas reçu de la part ni du peuple ni des rois. Il est l'objet de complots, on en veut à sa vie. Il fait plusieurs séjours en prison. À peine achevé, son manuscrit va être détruit. Pour lui, point de palais somptueux, point de mets raffinés, mais un trou dans lequel on va le plonger, un trou qui est rempli de boue dans la cour de prison. On se dit, waouh, deux hommes qui ont leur espérance en Dieu, mais pourtant un vécu complètement différent. Un que l'on va pouvoir qualifier de héros au travers des exploits et des choses extraordinaires qu'il va vivre. L'autre qu'on pourrait se dire, mais quel est le problème au final dans sa vie pour avoir vécu ce genre de choses? Cela voudrait-il dire que Daniel était plus fidèle à son Dieu que Jérémie? Absolument pas. Bien au contraire. Rien dans l'Écriture ne permet d'étayer une telle supposition. Est-ce qu'un était destiné à être un héros extraordinaire et l'autre un héros un petit peu moins extraordinaire? Ces deux serviteurs, chacun à leur place, là où Dieu les avait mis, là où Dieu avait jugé bon de les mettre, sont restés fidèles tous les deux, pieux, consacrés, confiants dans le Seigneur. Et quelle que soit, je dirais, l'opulence de la cour de grand monarque de l'époque ou dans l'humiliation d'une prison de la ville assiégée dans laquelle était Jérémie, ils ont tous les deux servi Dieu conformément à ce qui leur était en tout cas demandé. Et on s'aperçoit que les deux vont faire partie des héros de la foi. Persécutés et rejetés comme Jérémie ou préservés et honorés comme Daniel, ce sont des héros de la foi que la parole se plaît à honorer. Et ce qui est important à considérer, c'est le témoignage qu'ils ont rendu. C'est pas ce que la foi produit dans leur vie qui est important à considérer. C'est ce qu'elle a produit dans le cœur de ceux qui ont besoin aujourd'hui de se confier dans le Seigneur. Quel témoignage ça laisse ? On voit deux hommes qui ont une confiance dans le Seigneur, une consécration en Dieu, qui ont un destin complètement différent et qui sont pourtant considérés comme des héros. Et puis, si on prend par exemple le Nouveau Testament, le récit du livre des Actes, par exemple, lui aussi il ne manque pas de nous intriguer. Pourquoi ? Il nous a dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Dans cette période de persécution des débuts de l'Église, eh bien, on s'aperçoit que Hérode, qui est un homme qui a des principes contraires à ceux de la foi, veut faire plaisir au peuple, et puis il nous a dit qu'il va faire périr par l'épée Jacques, qui était quelqu'un de renommé hein, parmi les disciples du Seigneur. Mais miraculeusement, il nous a dit donc qu'il a pris Jacques, qu'il l'a mis en prison, et puis qu'il l'a fait périr par l'épée. Et puis, on a dans le même temps, comme ça plaisait aux Juifs, hein, eh bien, on va continuer, on va prendre Pierre, et puis on va lui faire la même chose. Oui, mais le texte nous dit, vous le connaissez, le texte nous dit que miraculeusement, Pierre, lui, va être délivré de la prison par un ange, et le sort hein, de la situation qu'il était destiné à subir, comme Jacques. Alors, on est interpellé, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jacques était un petit peu moins bien que Pierre? Est-ce que dans la vie de Jacques, il y avait un problème? Est-ce qu'il y avait une difficulté pour laquelle eh bien, il va subir cette chose? Et est-ce que Pierre était mieux au final? Ben, si on regarde un peu les textes, on se dit non, il n'y avait pas de grande différence comme cela. Une étrange différence, on va dire. Alors que le parcours des deux hommes avait été jusque-là parallèle, hein, tous deux faisaient partie des disciples de la première heure, ayant été appelé lorsqu'il pêchait sur la mer de Galilée. Tous les deux ont partagé des moments très importants et très uniques, hein, uniques avec le Seigneur, que d'autres ne vont pas vivre, dans la chambre de la fille Jaïrus, par exemple, sur la montagne de la Transfiguration. Tous les deux sont là, présents. Au jardin de Gethsémané également, tous les deux sont là, présents. Alors, pourquoi Jacques doit-il mourir si jeune? Pourquoi ces expériences avec Jésus n'auraient-elles pas été utiles à Jésus? Est-ce que si Jacques avait continué à vivre, il n'aurait pas été utile à l'œuvre de Dieu? Certainement que si. Et on se dit, mais pourquoi ce martyr alors? Pourquoi un tel va vivre une telle épreuve finale, fatale? Et pourquoi un autre va être délivré? Pourquoi, Seigneur, tu as délivré Pierre de la prison et pourquoi pas Jacques? L'un d'eux était-il plus fidèle que l'autre? Si c'était le cas, si on jugeait en termes de fidélité, ben moi, je miserais plus sur Jacques que Pierre, hein, quand on connaît un petit peu l'histoire. Alors pourquoi le Seigneur a choisi Pierre pour le délivrer? Si le Seigneur a dû parfois reprendre Jacques, je parle de Jacques, hein, dans certaines circonstances, hein, c'est en tout cas moins souvent que Pierre, hein, en termes de fidélité, en termes de cœur donné au Seigneur. De plus, Jacques n'a pas abandonné Jésus. Si, quelque part, il l'a abandonné à Gethsémané, mais comme tous les autres disciples. Mais Pierre va renier ouvertement, hein, chose que Jacques n'a pas fait. Pierre l'a fait trois fois, sachant, je dirais, nous incliner devant la souveraineté de Dieu. Et ça nous interpelle hein, dans ce chapitre des héros de la foi. Pourquoi l'un est un héros à cette manière et l'autre est un héros à l'autre manière? Alors, je vous invite tout simplement à prendre quelques leçons de ces faits, de ces circonstances ce matin. Et la première leçon, ce serait peut-être eh bien, de ne pas juger selon le succès ou l'épreuve apparente. C'est ce que nous avons souvent tendance à faire. Hein. On va regarder le produit et le résultat de quelque chose. Si ce produit, si ce résultat est bien, on va en juger qu'effectivement, cette personne est bénie, soutenue par Dieu, il vit par la foi. Mais en tout cas, s'il vit des épreuves et des différences, comme nous disions tout à l'heure, eh bien, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, c'est un principe des plus faux. C'est un principe bien humain, mais ce n'est pas le principe de la part du Seigneur. Donc apprenons à juger, non pas selon le succès apparent ou l'épreuve apparente. Hein. Nous sommes souvent prompts à juger la qualité de la vie chrétienne des frères et des sœurs au travers de ce qui se passe dans leur vie, d'après leur succès ou d'après leur épreuve. Tel croyant a été guéri, oh, c'est un homme de foi. Telle personne ne l'est pas, oh, ben, il est un petit peu moins dans la foi. Hein, tel autre a été le moyen de conversion, tel autre a été le moyen de prospérer, tel autre est éprouvé. On a souvent tendance à juger des choses au travers du produit, de ce que cela produit. Et pourtant, le Seigneur dit que ce sont des héros. Hein, Dieu, dans sa providence, n'a pas promis de garantir les siens contre le malheur que connaissent tous les hommes, bien au contraire. Hein. Bien au contraire, il annonce plutôt des souffrances particulières à ceux qui sont fidèles, nous en avons déjà parlé. La Bible annonce davantage, je dirais pour aujourd'hui, l'échec que la réussite. Hein. Hein, bien sûr qu'on aime. Je crois que la vie de foi est là pour changer fondamentalement, jusqu'à la racine de nos vies, ce qui autrefois nous menait dans la perdition et dans l'échec. Et je crois que la foi nous mène sur un nouveau chemin qui nous mène, bien sûr, à la réussite. Mais on s'aperçoit que la Bible annonce plus d'échecs que de réussites. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On aime à penser que dans les derniers temps, il y a une foule de gens qui vont se convertir. Oui, il y a une autre version qui dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Comment on va prendre les choses? Et c'est effectivement ce qui se passe. Et quand le Seigneur dit « l'amour du plus grand nombre se refroidira », il est en train de parler aux croyants. Il n'est pas en train de parler aux gens du dehors. Il est en train de parler aux croyants. On aime présenter l'évangile comme cette baguette magique qui va tout changer, qui va faire que les choses vont être remplies de bonheur et de joie et que tout va bien aller dans ma vie. Et pourtant, ce n'est pas du tout comme cela que le Seigneur présente la vie de foi. Il va changer les choses dans notre vie, mais non pas pour que les choses deviennent éclatantes pour éblouir le monde. Non, il a prévu autre chose pour chacun d'entre nous. Un succès bien plus éclatant que la foi que de gagner. Voilà ce que le Seigneur a prévu. Nous sommes là pour, quelque part, témoigner de ce que le Seigneur est capable de faire. Et ce que le Seigneur est capable de le faire, c'est changer nos vies. Mais ce que le monde attend, ce n'est pas forcément des exploits extraordinaires. Vous savez, les exploits extraordinaires, ça ne change pas grand-chose. Moi, j'ai par exemple mon père qui, un jour, s'est retrouvé paralysé par un faux mouvement, un mouvement assez brusque. Il a un os qui s'est cassé, qui a touché la moelle épinière, et puis il s'est retrouvé complètement paralysé. Et avec mon beau-frère, qui sert aussi le Seigneur, on est allé prier pour lui à l'hôpital, et en 2 mois, il était complètement guéri. Et on se dit, mais waouh, un tel changement, un tel miracle, ça va bouleverser la famille, ça va au moins bouleverser mon père, ça va au moins changer des choses. Eh bien, absolument pas. Ça n'a absolument rien changé. Ça n'a pas fait de lui un homme de foi. Ça n'a pas fait de lui quelqu'un qui a décidé de suivre le Seigneur. On s'attend toujours à des exploits extraordinaires. On se dit, la foi doit produire des choses extraordinaires qui va épater le monde. Eh bien, le Seigneur a bien d'autres moyens pour attirer ceux qui nous entourent. Et ce ne sont pas souvent des exploits, mais c'est ce que le Seigneur va voir dans nos cœurs. Et c'est ce que le monde voit dans nos cœurs. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour, par ce qu'il y a à l'intérieur, pas par les exploits que vous allez faire, pas par les choses que le monde est incapable de faire, pas parce que vous allez prier et puis qu'il va se faire des grands miracles. Non, ce n'est pas comme cela que le Seigneur a prévu les choses. En effet, le vainqueur aujourd'hui n'a-t-il pas déjà une partie de sa récompense d'ici-bas? Et à un moment, les pharisiens, les juifs, Jésus prend un peu leur exemple et il leur dit, mais ne soyez pas comme ceux qui aiment à prier à l'angle des rues, en disant, cherchez plutôt l'intimité de votre chambre plutôt que d'être vu aux yeux de tout le monde. Pourquoi? Il va leur dire, s'ils sont vus aux yeux de tout le monde, ils ont déjà leur récompense. Pourquoi Dieu les bénirait davantage? Ils cherchent à être vus. Ils sont vus, c'est bon. Mais on s'aperçoit qu'ils passent à côté de la bénédiction que l'Éternel veut leur donner. Ils passent et ils ont déjà leur récompense. Le monde cherche des récompenses semblables, alors que le Seigneur veut partager des choses beaucoup plus profondes. Et on peut se dire, nous aussi, nous sommes souvent, au travers de ce monde, influencés en se disant et en jugeant d'après ce que l'on voit, les qualités ou les épreuves, en disant, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sachons que le Seigneur a une toute autre façon de témoigner au-dedans de nous. Et quelle que soit la circonstance que je vis, le Seigneur me dit qu'il va changer cette circonstance en bénédiction. Et c'est ma confiance en Dieu qui, à ce moment-là, va interpeller tous ceux qui nous entourent. Ce n'est pas les exploits que je vais vivre et les choses extraordinaires. Ça va être ma confiance que j'ai dans le Seigneur au travers de l'épreuve, au travers de la difficulté. C'est en tout cas ce que l'on voit dans le chapitre 11 du livre des Hébreux. Certains ont vécu des choses extraordinaires, d'autres des choses beaucoup moins extraordinaires. Mais le Seigneur dit que ce sont des héros. Ce sont des héros, il faut les considérer comme des héros. Et peut-être des héros qui sont beaucoup plus éclatants que ceux qui ont vécu des exploits. Parce que finalement, quand on vit des choses qui épatent tous les autres, on reçoit aussi une récompense d'honneur. Alors que lorsqu'on vit des épreuves, ce n'est pas des récompenses d'honneur que l'on reçoit, bien au contraire. Mais c'est un témoignage. Si je reste fidèle au Seigneur jusqu'au bout, et c'est là ce que le Seigneur appelle un héros de la foi, Eh bien, tout simplement, je fais partager quelque chose que le Seigneur veut donner à tous ceux qui nous entourent. Donc, une première leçon serait peut-être bien de ne pas juger d'après le succès ou l'apparence des choses que l'on peut voir. Une deuxième chose, eh bien, il nous est dit qu'ils ont recherché une meilleure résurrection. L'objectif de ces gens-là qui vivaient une certaine situation dans laquelle peut-être et certainement certains auraient pu échapper, peut-être par la prière, oui. Il nous a dit qu'ils ont désiré quelque part subir ces choses parce que leur projet, c'était quoi ? C'était de vivre une meilleure résurrection. Parmi les héros malheureux de ce chapitre, certains n'ont pas accepté la délivrance. C'était même volontaire. Ils n'ont pas subi quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Ils ont aussi accepté de ne pas être délivrés afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il est parfois, je dirais, possible d'atténuer, voire, je dirais même, de changer des circonstances adverses en acceptant des compromis. Et c'est ce que nous sommes tentés à faire dans ce monde. On va accepter quelques compromis dans notre vie qui va faire que la circonstance d'épreuve ou de difficulté que je traverse va être amoindrie. Mais on s'aperçoit que ces gens-là, ils ont dit non, on ne veut pas de cela. On veut une meilleure résurrection. Je ne veux pas être délivré de la gueule des lions. Je ne veux pas être délivré de la scie qui va passer sur moi parce que j'ai l'espoir d'une meilleure résurrection. C'est ce que les inquisiteurs proposé autrefois aux croyants fidèles. On connaît tous l'histoire de la persécution, et notamment de Marie Durand. Vous connaissez l'histoire de Marie Durand, cette femme enfermée dans une tour. Et elle avait juste quelques mots à prononcer pour être délivrée de cette prison. Mais elle a dit non, pour rien au monde, je renierai mon Dieu. Il pouvait, au travers de cela, obtenir une certaine résurrection, c'est-à-dire vivre quelque chose de différent que ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Mais le texte nous dit qu'ils ont préféré une meilleure résurrection que ce que le monde est capable de nous offrir. Mais ceux qui ont refusé d'être délivrés du bûcher ou des galères auront une part spéciale dans la résurrection, une part spéciale. L'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ leur sera largement accordée, nous est-il dit dans 2 Pierre, largement accordée. Et je crois que nous sommes aussi bien souvent tentés à quelques compromis, à quelques facilités de choses de ce monde pour sortir des situations que nous vivons. Et c'est tout à fait compréhensible dans certaines situations. Mais je crois que l'espérance du héros de la foi, c'est quoi ? C'est Seigneur, c'est pas que je ne veux pas sortir de cette situation, mais ce que je veux voir, c'est ta gloire dans ma vie. Ce que je veux voir, c'est toi dans ma vie. Ce que je veux voir, c'est ce que tu es capable de faire, le produit que ça va faire et la confiance. Et je dirais que l'apogée de la confiance que l'on peut faire au Seigneur, c'est j'accepte une circonstance qui n'est peut-être pas favorable et pas agréable, mais je veux voir, Seigneur, comment tu vas changer cette circonstance en bénédiction. C'est cela, finalement, la meilleure résurrection. Et je crois que c'est à quoi ces gens s'attendaient, même s'ils étaient prêts à aller jusqu'à l'extrême et qu'ils ont vécu l'extrême. Dans ce sens, leur résurrection sera meilleure, parce que celle qu'ils auraient pu vivre à ce moment-là, cette résurrection d'être délivrés de la situation dans laquelle ils étaient, finalement, est-ce que cela aurait solutionné les choses dans leur vie ? Là, ensuite, ils étaient dans la présence du Seigneur et dans la gloire. Quelle meilleure résurrection ! Et pour chacun d'entre nous, eh bien pour nous aussi, même si nous ne sommes pas placés devant des choix aussi difficiles, refusons le chemin de la facilité, ayons devant nous la récompense éternelle que le Seigneur promet aux vainqueurs, à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, jusqu'au bout, et malgré les difficultés. Voilà ce que la parole de Dieu appelle un héros de la foi. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcément sortir vainqueur d'une situation. C'est quelqu'un qui, dans son cœur, témoigne de l'espérance et de la confiance qu'il a en Dieu, même dans la difficulté et dans la situation adverse qu'il est capable de traverser. Troisième et dernière chose que l'on pourrait retirer comme élément de ce passage, pensez à la joie commune qui est devant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux termine son développement en affirmant que tous, héros vainqueurs et héros vaincus, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils ne sont pas parvenus à la perfection. C'est-à-dire qu'ils ont connu, certes, la résurrection, d'aller dans la présence du Seigneur. Ils sont devenus des hommes et des femmes de Dieu qui vont connaître la présence du Seigneur. Mais la perfection, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'est de connaître Jésus. Voilà ce que la Bible appelle la perfection. Et effectivement, ça, ils ne l'ont pas connu, puisque c'était des passages antérieurs à la venue du Seigneur. Et cela veut dire que la parole de Dieu nous présente comme une perfection pour nous aujourd'hui de connaître Jésus, celui qui nous trace le chemin vers la gloire, lui seul y est arrivé. Et quelque part, nous avons un privilège par rapport à ces gens-là, par rapport à tous ceux qui sont des héros vaincus, on va les appeler comme cela. Nous avons un privilège de connaître une meilleure résurrection, nous aussi, mais aussi de parvenir à la perfection. Non pas que nous serons parfaits et sans défaut, mais nous avons connu la révélation de ce qui est parfait, c'est-à-dire Jésus. Eux ne l'ont pas connu. Donc, on a un privilège largement supérieur à ces héros. Nous avons un privilège largement supérieur à ce que ces gens ont vécu, c'est qu'il nous a été donné la révélation de ce qui est parfait de la part du Seigneur. Et nous pouvons aspirer et chercher à devenir parfaits, même si on le sait, hein, on n'y arrivera jamais tant que nous serons dans ce corps de mort. Mais on a maintenant un but ultime à suivre, celui de la perfection, et on a un exemple à suivre. Le monde aujourd'hui reconnaît des héros comme ceux que l'on voit aux Jeux Olympiques, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a des compétitions. Mais Dieu appellera un jour des héros ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, ceux qui ont persévéré par la foi et jusqu'à son retour. Voilà la définition du héros de la parole de Dieu. Mais on se dit, pourquoi certains vivent des choses extraordinaires et d'autres vivent des choses un petit peu moins enviables ? Eh bien, je crois qu'ils avaient l'un et l'autre, une espérance qui les unissait, c'est-à-dire la confiance qu'ils avaient en Dieu. Bien sûr, si on avait le choix, moi, Seigneur, je mise sur celui qui fait des exploits. On ne va pas suivre, on ne va pas prendre l'exemple, on ne va pas prendre faire le choix de celui qui sera coupé en deux, hein, forcément. Mais tous les deux avaient une espérance et, quelque part, leur témoignage et leur vie fait aujourd'hui, a le but aujourd'hui de ce que le Seigneur voulait partager à ce monde, en nous laissant l'exemple de ces héros, de ceux qui sont capables de vivre des choses. Je crois que dans notre vie, il nous est donné par la foi de vivre des choses extraordinaires. Il nous est donné de vivre la grâce de Dieu. Il nous est donné de vivre l'intervention de Dieu miraculeuse dans nos vies au travers de certaines circonstances. Mais le plus beau témoignage que je peux rendre, eh bien, c'est quand Dieu se glorifie alors que j'accepte encore la situation parce que mon but et mon désir, c'est de glorifier Dieu. Parce que elle est là, hein, véritablement, l'essence du héros. J'ai le désir de me confier en Dieu parce que je veux rendre témoignage au Seigneur. Alors, ne nous affligeons pas si nous vivons peut-être pas des exploits tels qu'on le voit, tels que ceux de David partant en guerre, celle d'Abraham qui vivait par la foi des choses extraordinaires, des révélations, celle de Moïse qui va monter au Sinaï. On pourrait avoir des complexes, hein, par rapport à ces choses-là. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes des héros de la foi, parce que nous sommes destinés à parvenir à la fin des temps, en témoignant de l'espérance que le Seigneur a mis en chacun d'entre nous. Et je crois que c'est cela, hein, ce que nous sommes destinés à être. C'est cela, les héros de la foi. C'est au travers de cela que l'on va témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Parce qu'il n'y a pas des choses extraordinaires, parce qu'il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être des épreuves, mais je vois que dans ton cœur, il y a une espérance que le monde ne connaît pas. Je vois que dans ton cœur, et je constate que dans ton cœur, il y a quelque chose que le monde ne connaît pas. Et je crois que c'est là, à cela que le Seigneur nous destine, à être ces héros de sa parole. Et comme toute chose va être écrite, est écrite, hein, on s'aperçoit, il est intéressant de regarder dans la parole qu'il y a plusieurs livres. Il y a le livre de la vie dans lequel notre nom est écrit, mais il y a plusieurs livres qui relatent des exploits. Et bien, je suis convaincu que chacun d'entre nous, et bien, nous sommes écrits, inscrits dans le livre des héros de la foi. Et je crois que le Seigneur compte sur chacun d'entre nous, de notre vie, mais ne faisons pas un complexe, hein, si je ne vis pas des exploits, même si je vis une vie de difficulté. Le Seigneur me dit, tu vas parvenir à une meilleure résurrection. Une meilleure résurrection, parce que c'est au travers de ces choses-là que je veux me glorifier dans ta vie, mais aussi dans la vie de ceux qui te regardent. Alors ce matin, nous sommes des héros à Bruay. Le monde ne le sait pas, mais nous sommes des héros à Bruay. Je crois que le Seigneur a des projets pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'il faut vraiment considérer cela. Hein, on considérait tout à l'heure la Sainte-Seine, comme Jean-Bernard nous disait. un échec aux yeux du monde, une vie de quelqu'un qui était exemplaire, qui a fait du bien, que l'on a mis à mort, ça a servi à rien, mais le témoignage qu'il nous a laissé et l'exemple qu'il nous a laissé nous sert aujourd'hui de perfection, les choses auxquelles il faut courir, les choses auxquelles il faut chercher. Et je crois que nous sommes exactement dans la même situation que Jésus aujourd'hui. Il veut se servir de ce que nous sommes pour témoigner au monde. Mais ne faisons pas comme un complexe. S'il nous arrive des difficultés, des problèmes, des épreuves, ce n'est pas que nous soyons moins fidèles que les autres ou moins bien que les autres, non. C'est que le Seigneur veut nous faire parvenir à quelque chose que les autres n'ont pas vécu. Et le Seigneur va se servir, malgré ces difficultés adverses, de témoignages. Les exploits vont servir, bien sûr. On aime parler de Samson, de sa foi, de sa force extraordinaire. Mais quand vous regardez, moi, le témoignage que je préfère dans toute la parole, c'est David. Mais pas David dans ses exploits, pas David dans ses guerres, pas David dans les choses extraordinaires qu'il a faites. Moi, ce que j'aime regarder, c'est David dans les psaumes. Vous savez, quand il est au fond de la galère, quand il est bien au fond, et qui dit « moi, j'espère en toi ». Moi, je suis ce que je suis rien du tout, mais j'espère en toi. Et franchement, c'est le plus enrichissant des témoignages que l'on peut trouver dans toute la parole. Eh bien, je crois que c'est un héros de la foi, au même titre que nous, au même titre que de ce que les gens peuvent voir dans notre vie. Même s'il n'y a pas des exploits extraordinaires, même si des fois il y a des difficultés particulières, je crois que le Seigneur nous a destinés à être des héros, et parce que nous serons un jour dans sa présence. Et ce matin, il n'y a pas la quantité, mais il y a la qualité des héros de la foi. Et ça, moi, j'y crois, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous a fait ce plaisir. Amen. Merci, Éternel. Merci pour ta parole. Merci. Merci d'avoir fait de nous des héros. Et ce n'est pas nous encore, ce n'est pas nos qualités, ce n'est pas nos capacités encore, c'est l'espérance que tu as mis en nous. C'est la foi que tu as mis en nous. C'est la confiance qui vient de toi, cette semence de foi que tu as su déposer dans nos cœurs. Seigneur, que toutes les circonstances que nous puissions vivre dans notre vie, qu'elles soient favorables ou qu'elles soient dans des temps d'épreuve, Seigneur, que ces circonstances puissent encore témoigner de notre confiance en toi. Et nous te prions, Seigneur, de te servir de ces moments-là, afin que le monde qui nous entoure, tous ceux qui nous entourent, nos familles, nos amis, nos collègues, puissent voir ta gloire dans ces moments-là. Voir que tu as fait de chacun d'entre nous des héros qui vivons des choses extraordinaires que le monde ne connaît pas, une espérance que le monde ne connaît pas. Seigneur, sois béni pour ce que tu as produit dans nos cœurs et dans nos vies. Sois béni, Seigneur, pour toutes les délivrances que tu accordes à ceux qui vont les vivre, Seigneur, et que cela aussi serve de témoignage à ce monde que tu es le Tout-Puissant, celui qui est capable de changer des circonstances dans leur vie. Mais Seigneur, notre but, c'est comme ces héros, c'est de t'honorer, parce que nous aussi, nous désirons une meilleure résurrection, et nous voulons te voir pleinement agir dans nos cœurs, dans nos vies, mais surtout que nos vies te servent de témoignage à ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, sois béni pour les projets que tu as pour chacun d'entre nous, des projets de joie, des projets de bonheur et des projets d'espérance. Même si aux yeux du monde, même si ces choses ne paraissent pas enviables, Seigneur, nous savons que tu as des projets pour chacun d'entre nous, celle d'une meilleure résurrection et d'être un jour dans ta présence. Et sois béni, Seigneur. Amen.